VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Violence en Libye, les forces alliées au GNA, le gouvernement d'Union nationale à Tripoli, reconnu par la communauté internationale, ont repoussé ce vendredi les combattants fidèles au maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, engagé dans une offensive pour prendre la capitale. Des affrontements susceptibles de replonger la Libye dans un nouveau conflit. L'escalade coïncide avec la visite dans le pays du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a rencontré le premier ministre du GNA, Fayez al-Sarraj, jeudi à Tripoli, et doit voir aujourd'hui son rival, le maréchal Khalifa Haftar. Face au risque d'embrasement, le Conseil de sécurité de l'ONU compte se réunir en urgence à 19h temps universel à la demande du Royaume-Uni pour discuter de la situation en Libye. Et ce, après de multiples appels internationaux à la retenue, notamment de la part de Washington, Claire Morin-Gibault.
Le communiqué diffusé par le département d'État américain est très clair. Les gesticulations militaires et les menaces d'action unilatérales risquent seulement de replonger la Libye dans le chaos. Les gouvernements français, anglais, américain, italien et émirati affirment toujours dans ce communiqué qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit libyen. Ils s'opposent à toute action militaire et tiendront pour responsable toute faction libyenne qui attisera le conflit civil, tout en réaffirmant leur soutien à l'ONU pour résoudre la crise. L'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, a ordonné hier à ses forces d'avancer en direction de la capitale Tripoli, siège du GNA, le gouvernement d'Union nationale.
Au Mali, les jeunes des localités de Bandiagara, Bankas et Koro, dans le centre du pays, ont manifesté jeudi. Ils étaient, selon les organisateurs, des centaines à défiler dans les rues pour demander la sécurité pour les populations et leurs biens en pays Dogon. Cette manifestation fait suite au massacre d'Ogossagou et aux récentes attaques dans plusieurs localités. Le point avec Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Rappeler à l'État sa responsabilité exclusive par rapport à la sécurisation du pays Dogon, non à l'insécurité, oui à la protection de tous, telles sont entre autres raisons de ces marches selon Adama Djonko, porte-parole du collectif des associations du pays Dogon. À Bandiagara, il y a eu 1000 personnes avec une ville morte. Des commerces, l'administration, tout était fermé. Koro a enregistré la participation de 200 jeunes, la ville était totalement paralysée. À Bankas, toutes les communes était représenté et la ville était aux arrêts. Ajoute Adama Djonko. Ce 4 avril 2019, les jeunes du pays Dogon sont sortis massivement et de façon synchronisée afin de crier haut et fort leur ras-le-bol contre l'insécurité, les violences, les amalgames ainsi que les stigmatisations qui sont devenues depuis 2012 leur quotidien. Avant ces marches, l'intervention des hélicoptères d'attaque des forces armées et de sécurité après le coucher du soleil a permis de mettre un terme à une attaque lancée par les hommes armés non identifiés contre les villages de Tegrou, Ogossagou, Kobadje, tous dans le pays Dogon, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Cour pénale internationale de La Haye, les États-Unis ont révoqué le visa de la procureure générale de la CPI, Fatou Bensouda, de nationalité gambienne. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le bureau de Madame Bensouda, citant comme raison une possible enquête sur les exactions de soldats américains en Afghanistan. Fatou Bensouda avait annoncé en 2017 qu'elle allait demander au juge de la CPI l'autorisation d'ouvrir une enquête sur des crimes de guerre présumés commis dans le cadre du conflit afghan, notamment par l'armée américaine.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Relations États-Unis-République démocratique du Congo, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, en visite à Washington, aura des consultations ce vendredi avec John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Mais aucun entretien n'est prévu avec le président américain Donald Trump. Le chef de l'État congolais a demandé jeudi l'aide des États-Unis pour sortir son pays de la crise qu'il traverse depuis des décennies. Pour lui, les États-Unis sont le partenaire idéal pour contribuer aux réformes de l'armée et de l'administration en RDC afin de pouvoir ensuite attirer les investisseurs dans le pays. Évoquant les potentialités de la RDC, Félix Tshisekedi a aussi invité les acteurs économiques américains à s'intéresser aux minerais stratégiques congolais. La veille, mercredi, le président Tshisekedi avait été reçu par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, qui a apporté son soutien au programme de changement du leader congolais. Le Rwanda marque dimanche le 25e anniversaire du génocide de 1994 et ses 800 000 morts, essentiellement parmi les Tutsis. Le président rwandais Paul Kagame allumera dans la matinée une flamme du souvenir au mémorial de Gisozi à Kigali. Puis dans l'après-midi, il prononcera un discours lors d'une cérémonie au stade Amahoro, le stade de la paix dans la capitale rwandaise. Cette journée ouvrira une semaine d'activités en liaison avec la mémoire du génocide, un programme d'échange et de réflexion sur des thématiques diverses avec notamment un deuil officiel de 100 jours. Invité par Paul Kagame, le président français Emmanuel Macron sera le grand absent des cérémonies de commémoration. Il a décliné l'invitation en invoquant des problèmes d'agenda. Mais soucieux des symboles, Emmanuel Macron dépêchera à Kigali le député Hervé Berville, orphelin Tutsi rwandais adopté par une famille française en 1994. Le président Macron a annoncé ce vendredi un renforcement des moyens judiciaires et policiers pour accélérer d'éventuelles poursuites contre des personnes soupçonnées d'avoir pris part au génocide de 1994 qui se trouveraient en France. Il a aussi ouvert aux historiens toutes les archives françaises concernant le génocide rwandais. Par ailleurs, poursuite de notre série sur le 25e anniversaire du génocide, le Rwanda compte parmi les survivants des massacres des orphelins qui se sont sacrifiés pour aider les autres. Pour subvenir aux besoins de leurs frères et sœurs, ces orphelins ont dû apprendre, parfois à 10 ans seulement, à jouer le rôle de leurs parents massacrés dans la tuerie. Idriss Fall, notre envoyé spécial à Kigali, s'est rendu dans un village abritant ses enfants chefs de ménage, qui sont maintenant des adultes. Son reportage.
Le génocide rwandais a laissé bon nombre d'enfants orphelins de père et de mère. Ainsi, beaucoup d'enfants sont devenus chefs de ménage et sont maintenant aidés dans leurs tâches par l'association Maïcha Africa.
Je m'appelle Rugera Jean-Claude et je suis le coordinateur de l'association Maïcha Africa qui a été créée par la ministre France Sonia Roland. Cette association, après le génocide, nous avons un groupe des enfants qu'on a aidés à refaire leur maison, qui sont les enfants chefs de ménage. Et ici à Kinyinya, nous avons 40 enfants. De l'autre côté, à peu près une trentaine à Kimirongo.
Emmanuel Nyonzima, à l'âge de 14 ans, devait déjà prendre en charge l'éducation de 5 frères et sœurs, tous orphelins.
J'ai perdu mes parents et j'étais l'aîné. Donc, j'ai pris la responsabilité d'être le chef de ménage puisqu'il me restait 5 enfants, donc 5 de ma famille. C'était prévisible, j'étais l'aîné. Alors, c'est à moi qui devais apporter de l'éducation à ces enfants pour leur dire de rentrer tôt, pour leur dire d'aller à l'école, de faire les devoirs, pour la discipline. Tout ce que mon père pouvait faire ou ma mère pouvait faire revenait à moi. Et aujourd'hui, ils ont grandi, ils ont leur famille. Seul le dernier, il a un enfant mais il n'est pas encore marié.
Comment est-ce que vous avez fait pour les nourrir, les loger, les habiller?
Au départ, bien sûr, c'était un don du gouvernement. Pour les maisons, c'est le gouvernement qui construit ces maisons juste après le génocide, avant bien sûr que cette association ne vienne en aide.
Je m'appelle Marte Gataraï.
Et j'étais le grand parce que les petits, l'un avait 6 ans, l'autre avait 7 ans. Donc j'étais le grand puisque j'avais 10 ans.
Comment est-ce que vous avez pu asseoir votre autorité à 10 ans sur des enfants qui ont 6 ans?
Il y avait un parent qui nous assistait et qui m'entraînait à devenir chef de ménage et qui me disait comment faire, comment traiter mes petits frères, et il m'a aidé beaucoup pour asseoir mon autorité. Mon projet, c'est de fonder mon foyer. Je veux me marier très bientôt.
Comment est-ce que vous avez perdu vos parents pendant le génocide?
Nous étions ensemble, nous étions rassemblés dans une église. Ils nous ont trouvés là-bas et ils ont tué tout le monde. Ça, je me rappelle très bien.
Comment est-ce qu'il a survécu alors?
C'est la grâce de Dieu. Certains ont pu fuir. On les a tirés dessus. Beaucoup de balles. Certains sont tombés. D'autres ont été sauvés, dont moi.
Depuis Kigali, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.